Lire, les yeux fermés. Une émission qui vous est proposée par Radio Air Libre. Choses se font parfois sur une table nue, au cœur d'un silence sans fêlure. Petit texte de Paul Nouget, intitulé Un secret, Paul Nouget, que je vous propose de découvrir aujourd'hui, ou en tout cas de tenter d'approcher, car parmi les poètes belges, il est sans doute un des plus secrets. Son œuvre est très synthétique, pour autant qu'on puisse parler d'une œuvre. On examinera ce problème dans quelques instants. Laissez-moi vous dire d'emblée que Paul Nouget est né en 1895 et mort en 1967. Il était chimiste de profession, mais il est surtout connu dans le monde culturel, et spécifiquement dans le monde culturel belge, comme étant un surréaliste, et même, dirais-je, une des figures de proue du groupe de Bruxelles. Vous savez que le surréalisme comportait deux groupes en Belgique, deux groupes qui ont parfois travaillé de concert, ou parfois travailler avec le groupe de Paris. Il y avait le groupe du Hainaut et le groupe de Bruxelles. Alors, dans le groupe de Bruxelles, on trouvait donc Paul Nouget, Louis Scutener, René Magritte et quelques autres. Ses amis surréalistes belges se sont exprimés à travers différentes choses, mais essentiellement des revues ou des tracts comme correspondance que Nouget fonde en 1924 avec Le Comte et Goumans. C'est donc l'époque où, à Paris, André Breton et ses amis créent la revue La Révolution surréaliste. C'est le temps fort du surréalisme français et il commence à essaimer ailleurs dans le monde. D'un autre côté, c'est aussi le moment où beaucoup de surréalistes s'engagent politiquement et plus spécifiquement d'ailleurs au Parti communiste. Ce sera le cas des surréalistes français qu'André Breton, entre autres, en France, mais également des gens comme René Magritte ou Paul Nouget en Belgique. Paul Nouget qui sera d'ailleurs un des fondateurs de la section belge de la Troisième Internationale. On rappellera qu'en accord avec ses idées, Achille Chavée, lui plus représentatif du groupe surréaliste du Hainaut, s'engagera dans les brigades internationales. Mais ce sera un peu plus tard, bien entendu. Alors, en ce qui concerne les œuvres de Paul Nouget, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas proprement parler d'œuvre, mais bien de divers petits textes d'analyse, de critique qu'il avait ce besoin d'écrire, et à la fois il était très réticent à publier. Alors Marcel Marian, autre surréaliste, a réuni pas mal de textes de Nouget, mais il n'existe aujourd'hui aucune version complète, aucune édition complète des œuvres de Paul Nouget, ou pour être plus précis, de ses écrits. Faisons connaissance, si vous le voulez bien, avec l'œuvre de Paul Nouget à travers un livre qu'Olivier Smulders lui a consacré. Ce livre, Paul Nouget, Écriture et caractère à l'école de la Ruse, a été publié dans les archives du Futur, collection des éditions Labor. Paul Nouget est sans aucun doute un de ces écrivains qui auront délibérément disposé à l'intention de tout qui voudrait les enfermer dans une analyse, un chassé-croisé d'embûches de la plus belle espèce. Le fantasme organisateur qui hante toute démarche critique se trouve en effet désorienté dès l'approche de son œuvre, non pas tant à cause de l'éclectisme dont l'auteur a fait preuve dans le choix des objets qu'il a décidé de traiter, cette mosaïque d'objets trouvant très tôt la cohérence du regard particulier qui leur sera inlassablement porté, mais bien plutôt par ce constant souci de n'opérer jamais que par fragments, tracts circonstanciels, notations éparses, conférences confidentielles, correspondances privées et publications parallèles au circuit littéraire. Cette stratégie d'écriture adoptée très tôt par Nouget correspond à une ligne de conduite intellectuelle à laquelle il restera attaché toute sa vie. On y devine dès l'origine son souci de ne pas faire œuvre, de ne pas entrer dans les sphères de la littérature et de l'art, de n'entreprendre aucune réflexion qui ne soit autre chose que de brefs prolégomènes à une action qui, pour être sans cesse différée, n'en est pas moins à chaque fois approchée, circonscrite, conjecturée. Sans doute est-ce pour cette raison qu'on ne découvrira réellement Nouget qu'à travers cet amalgame de textes épars, vestiges parfois aboutis, parfois à peine ébauchés, d'une certaine intelligence au travail. Que ce soit à propos du langage, de la musique, de la peinture, du céréalisme, des échecs, du communisme, de la magie ou de l'érotisme, les notes de Nouget parcourent sans cesse les chemins d'une mise à la question dont l'acuité et la rigueur ne manquent pas d'étonner aujourd'hui encore. Plus secrète et plus confidentielle, son œuvre poétique porte, elle aussi, la marque de cette distance qu'il convient de prendre vis-à-vis des mots, des êtres et des choses, avec encore plus d'obstination que pour ses textes théoriques. Nouget travailla à l'occultation de ses poèmes, cherchant à congédier par avance tout risque d'une contamination possible par cette littérature qu'il repoussait autant qu'elle l'attirait. Conscient d'être parfois la victime de son sens trop aigu de la perfection, répugnant en tout cas à briguer une place parmi les bons auteurs, il fut de ceux qui prennent le parti d'élever leurs exigences à un niveau qui rend presque dérisoire la nécessité même pour un écrivain de se donner à lire. Mais peut-être est-ce déjà cela qu'il ne voulut ou qu'il n'osa pas devenir, un écrivain, un de ces êtres ridicules par la confiance qu'ils mettent dans les vertus du langage et par ailleurs prestigieux en raison du rôle qu'ils peuvent jouer dans la façon dont les hommes inventent le monde. Passionné de littérature, Nouget en fit sa pire ennemie. La méfiance vis-à-vis du carriérisme littéraire devait dans un premier temps marquer la plupart des surréalistes et a fortiori ceux qui, au sortir de la guerre 14-18, s'étaient jetés à corps perdu dans la grande lessive dadaïste. On monte en épingle la célèbre volte-face de Rimbaud. On admire les réticences de Valéry à user de ses dons naturels. Pour un peu, on féliciterait Isidore Ducasse et Jacques Vacher d'être morts avant d'avoir pu décider eux-mêmes de leur sort. En 1924, André Breton écrit « Sans lui, Jacques Vacher, j'aurais peut-être été un poète. Il a déjoué en moi ce complot de force obscure qui mène à se croire quelque chose d'aussi absurde qu'une vocation. Je me félicite à mon tour de ne pas être étranger au fait qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes écrivains ne se reconnaissent pas la moindre ambition littéraire. On publie pour chercher les hommes et rien de plus. » Poussé à l'extrême par les surréalistes belges, cette stratégie devait leur insuffler pour longtemps le goût de la clandestinité, le refus de parader dans les milieux littéraires et la répugnance à publier des œuvres, fût-ce pour chercher ceux qu'ils préfèrent appeler des complices. Scutener donnera dans un aphorisme imparable la juste mesure de cette attitude. J'ai trop d'ambition pour en avoir. Bien qu'il tînt longtemps le rôle d'une sorte de chef de file du groupe bruxellois, Nouget se vit parfois reprocher par ses amis eux-mêmes l'apparente inconsistance de son œuvre. C'est pour faire taire certaines mauvaises langues qu'il prétendait qu'il n'avait pas d'œuvre, puisque celle-ci n'était pas publiée. Que Jeanne Graverolle le poussa à accepter tardivement les propositions d'édition de Marcel Marian. Cette réticence à la publication n'était cependant que la partie visible de l'iceberg. Plus profondément, il semble que Nouget ne trouva pas toujours l'écriture elle-même nécessaire, détournant ses projets vers la peinture de Magritte ou la musique de Souris, se contentant de tracer parfois l'esquisse d'un poème ou d'une réflexion critique, comme si la conception le satisfaisait et ne gagnerait rien à être vérifié par l'exécution. L'introduction qu'il donne aux images défendues, regroupant pourtant ses principaux travaux sur Magritte, insistera encore sur le fait qu'il ne s'agit là que de notes, assez attentives il est vrai, mais destinées à quelques discours cohérents qui ne fut pas écrit, l'auteur redoutant cette sorte de ciment implacable qui fait les monuments et les tombeaux éternels. A fortiori, répugna-t-il à donner à lire des mots et des phrases dont il n'aurait pas été entièrement satisfait. Or, l'exigence qu'il jugea bon d'avoir pour ses propres écrits ne le cédait en rien à celle qu'il réclamait aux auteurs dont il fit la critique. L'essentiel à prendre en considération, c'est que l'esprit, sous quelque modalité qu'il nous sollicite, tend invariablement à s'épanouir en acte qui le justifie. L'action apparaît ainsi comme sa condition et son retentissement inéluctable. Et puisque c'est une nécessité pour nous que d'inventer des images, que de procéder par analogie, nous ne pouvons mieux faire. S'il s'agit du développement de la marche de l'esprit, que de l'imaginer à la faveur d'une succession d'envoûtements ou de charmes, tour à tour acceptés, refusés et rompus. Parmi les puissances capables d'envoûter l'esprit, puissances qu'il lui importe de subir et contre quoi il importe qu'il se révolte, poésie, peinture, spectacle, guerre, misère, débauche, révolution, toute la vie doublée de mort, est-il possible, parmi ces puissances, de refuser à la musique une place peut-être importante? D'où les espoirs et les craintes particulières dont elle ne cesse, pour nous, d'être l'objet. L'esprit procède par invention bouleversante. Et que l'on ne s'empresse pas de songer aux inventions proprement intellectuelles. D'autres espaces nous sont ouverts. Il est temps de se rendre compte que nous sommes capables aussi d'inventer des sentiments et peut-être des sentiments fondamentaux comparables en puissance à l'amour ou à la haine. L'esprit se nourrit de nos risques et de nos défaites, comme de nos victoires, et celles-là même, humbles ou discrètes, que nous sentirions tentés de négliger, sont peut-être vouées à un retentissement infini. Mais ici, toute prévision est spécieuse, car il ne saurait être question de résoudre un problème dont les termes, à chaque instant, font mine de nous échapper. La certitude n'en reste pas moins que l'esprit n'existe qu'à la faveur d'une aventure sans limite, aux mouvements et aux perspectives sans cesse renouvelées, où les dangers que nous discernons et qui, à chaque instant, menacent de la faire tourner court, sont aussi, si nous refusons de nous incliner devant eux, les plus sûrs garants des seules victoires qui nous tentent encore. Ainsi, messieurs, qu'il s'agisse de musique ou de quelque autre événement humain, l'esprit est à notre merci et nous en sommes réellement responsables. C'est de cette responsabilité qui pèse sur chacun d'entre nous que je souhaite vous avoir convaincu aujourd'hui. Je viens de vous lire un extrait de La conférence de Charleroi, texte de Paul Nouget datant de 1946. Thank you. À part quelques textes de critique littéraire ou cette conférence de Charleroi, il est vrai que la plupart des textes de Nouget sont courts, parfois vraiment syllabiques, comportant une phrase ou deux, quelques mots et pas plus. Cette concision fut souvent reprochée à Paul Nouget. Voici ce qu'en écrit Olivier Smulders. Il ne viendrait sans doute plus à l'idée de personne, aujourd'hui que la petite histoire littéraire a suivi son chemin, de reprocher à Nouget cette concision extrême qui, pour hermétique qu'elle puisse paraître, n'emmène pas moins le lecteur vers des réflexions singulières et imprévues. Il n'est pas sans intérêt cependant, à chaque fois que l'on approche ses écrits, d'observer à quel point cette problématique les traverse. Nouget aura été un homme qui parlait peu, qui ne publiait presque rien, mais dont chacune des paroles, chacun des textes n'en a paru aussitôt que frappé d'une plus grande importance. Cette singularité ne devait pas manquer d'avoir des effets pervers. Car, à trop vouloir vérifier l'efficacité d'une formule ou d'un mot d'ordre, les exégètes n'échapperont guère au piège qui consiste à enfermer la pensée de Nouget dans les quelques mots de passe qu'il a lui-même soigneusement forgés puis véhiculés d'un texte à l'autre. Il s'ensuit que nous voilà tous soudain frappés d'une singulière écolalie, répétant à l'envi la même mise en boîte d'année en année, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que ceci, quelques mots bien sonores, mais de plus en plus vides de sens. Nous-mêmes, sans doute, nous ne résisterons guère à l'envie de passer par les mêmes chemins, tout heureux de nous y trouver en terre connue, au risque parfois de paraître nous contenter de tels lieux communs, de même que l'érudition scolaire s'accommode d'un Pascal réduit à un sordide Paris, ou d'un Proust ramené à une histoire de biscuits trempé dans une tasse de thé. Nouget, il est vrai, n'aura pas peu contribué à la fortune de quelques-unes de ses formules préférées, n'hésitant pas à se réécrire, tout comme il réécrivit les textes des autres. Du reste, le principe même de réécriture systématique, toujours plus ou moins avoué, traverse toute son œuvre et vient ajouter encore à l'embarras du lecteur. À y regarder de plus près, on peut même avoir le sentiment que Nouget a consacré beaucoup plus de temps et d'énergie à recopier des textes plutôt qu'à écrire at nihilo, si tant est qu'on n'écrive jamais à partir de rien. L'ensemble de son œuvre se présente en effet au lecteur comme un perpétuel travail de palimpseste, à commencer bien sûr par les tracts de correspondance, mais ensuite et encore par le dessous des cartes, les quelques écrits de Clarice Juranville, La parole est à Baudelaire, la chronique Les nuits, les plaisirs et les ennuis, Georgette, le miroir exemplaire de Maupassant, un portrait d'après nature, et une partie importante des fragments publiés dans Le fait accompli. La liste des auteurs réécrits par Nouget serait impressionnante à dresser. On y croise entre autres Paulhan, Valéry, Breton, Baudelaire, Lautréamont, Cocteau, La Rochefoucauld, Prévert, Stendhal, Havelock Ellis, Colin Scott, Oscar Wilde, Morris, Gutzeit, Freud, Sade, Kiernan, Goethe, Restive de la Bretonne, Sacher Masoch, Bachelard, Paracels, le père Kircher, Schwab, le docteur Soula, Maeterlinck, Palowski, Graverolle, Maupassant, sans compter les auteurs plus obscurs comme le professeur de grammaire Clarice Juranville, l'auteur du roman érotique Georgette, les annonceurs publicitaires dont les formules sont détournées, la sagesse populaire elle-même dont les poncifs se prêtent à bien des retournements poétiques. Ces différentes réécritures ne sont bien évidemment pas à loger toutes à la même enseigne. Parfois simple travail de lecteur consciencieux ou de conservation de textes introuvables, la réécriture nougéenne sera surtout utilisée comme une sorte de machine de guerre, une stratégie de gauchissement de textes antérieurs par l'effet de modification à la fois imperceptible et décisive. Suffisamment méfiant vis-à-vis de la littérature et du langage pour éviter à tout prix d'encombrer davantage encore les rayons des bibliothèques, Nouget aura souvent utilisé ce chemin pour dresser les phrases et les mots contre eux-mêmes, pour écrire encore, sans pourtant paraître écrire en aucune façon.